Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé par Barthélémy Gaillard, Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon, Joséphine Reinhardt, Gwendoline Troyano et Nora Litoussi, réalisé par Vivian Lecuivre, et la technique ce matin, c'est Anthony Thomasson. C'est le premier volet de notre série consacrée au rapport de force politique qui se noue à travers les accords de libre-échange. Nous parlerons demain de la Chine qui ambitionne de créer la plus grande zone de libre-échange au monde. Mercredi, du continent africain en quête d'une union par le commerce. Jeudi, du repli protectionniste américain. Aujourd'hui, l'Union européenne qui multiplie les partenaires non sans rencontrer des résistances. Après le vote jeudi du Sénat français contre le CETA, l'accord avec le Canada, les projecteurs sont braqués sur une partie de l'Amérique latine.
Les deux parties des discussions sont convaincues qu'il est temps de conclure l'accord entre l'Europe et le Mercosur. Nous avons l'ambition que cela soit fait aussi rapidement que possible.
Un certain nombre de bêtes sont autorisées au mètre carré chez eux, elles sont entassées les unes sur les autres. Ce qui ne va pas surtout, c'est que là-bas, on pique aux hormones, c'est nourri à l'OGM. Nous sommes défavorisés par rapport à toutes les normes qu'on nous impose. En fait, nos produits sont très chers par rapport à ce qui est importé et on n'arrive pas à s'aligner.
Je le dis très fermement, puisqu'on parle de l'international, la France s'oppose de manière claire, comme elle l'a fait depuis le premier jour par la voix du président de la République, à la signature du traité Mercosur. Je le redis ici de manière très claire, très nette, le président de la République s'y est toujours opposé et nous continuons et continuerons à nous y opposer.
En matière de libre-échange, la position du gouvernement français n'est pas toujours facile à suivre. Le traité de l'Union européenne avec le Mercosur, Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay, serpent de mer ressurgissant de loin en loin depuis 20 ans et finalement signé en 2019, n'est toujours pas ratifié parce que la France, entre autres, s'y oppose désormais au motif que son secteur agricole pourrait s'effondrer face à la concurrence déloyale de leurs homologues sud-américains. À l'inverse, le gouvernement soutient depuis le début le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada. Longtemps, il a renâclé à le faire voter par le Sénat. Le texte avait de grandes chances d'y être retoqué. Et c'est précisément ce qui s'est passé jeudi dernier, les sénateurs communistes ayant profité de leur droit d'initiative pour imposer l'examen de cette question lors de leur niche parlementaire. C'est dans ce contexte que les débats avec l'Amérique latine sont relancés cette semaine même. Emmanuel Macron sera à Brasilia mercredi pour rencontrer le président Lula, qui, lui, compte toujours sur le Mercosur pour offrir à ses éleveurs de nouveaux marchés. Alors l'Europe peut-elle sécuriser ses approvisionnements, le grand argument avancé pour ces accords de libre-échange, tout en protégeant ses agriculteurs, déjà très échaudés par diverses mesures européennes, comme ils l'ont rappelé dans les grandes manifestations de janvier et février. Les oppositions nationales peuvent-elles remettre en cause la stratégie européenne? Nous en parlons ce matin avec nos deux invités. Bonjour Elvire Fabry.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheuse senior géopolitique du commerce à l'Institut Jacques Delors. Vous travaillez en particulier sur le levier de la politique commerciale pour l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Vous êtes ici en studio avec Maxime Combes. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Vous êtes économiste à l'ETEC, c'est l'Association internationale de techniciens, experts et chercheurs. Vous êtes membre du collectif Stop CETA Mercosur. Donc, on l'entend bien, une fois n'est pas coutume. D'ailleurs, dans Culture Monde, on a choisi de faire un débat. Mais il s'agit d'abord de comprendre l'enjeu du vote des sénateurs jeudi dernier contre le CETA, le traité de libre-échange avec le Canada. Comment ce rejet peut-il interférer, Maxime Combes, dans la mise en place de cet accord commercial conclu en 2014?
À ce stade, je pense qu'il est important de comprendre que ce texte, mais globalement, finalement, tous les textes qui visent à approfondir la mondialisation n'ont plus à la fois de majorité sociale dans le pays, c'est-à-dire que la population, tous les sondages le montrent, est plutôt largement opposée à l'idée d'étendre la mondialisation, de signer de nouveaux accords de libre-échange, d'aller chercher finalement des ressources toujours plus loin en dehors de la France ou de l'Union européenne. Et ce qu'exprime le vote du CETA, c'est qu'il n'y a désormais plus de majorité politique.
Le vote contre le CETA du jeudi.
Contre le CETA du jeudi. Donc, bien entendu, il y a après des positionnements politiciens, mais derrière cela, si on va un petit peu plus loin, c'est de se rendre compte qu'il n'y a plus de majorité politique pour ces accords-là, parce qu'on est effectivement au bout d'une logique de 30 ans de libéralisation progressive de nos économies, avec des effets relativement massifs sur l'industrie dans les années 90 et 2000, et aujourd'hui des effets qui vont toucher de plus en plus le monde agricole. Et c'est cela qui s'est exprimé dans le Sénat. Peut-être juste rajouter que ce n'est pas très nouveau qu'il y ait finalement une grande majorité d'élus français qui s'opposent à ces accords-là. C'est généralement le cas au sein du Parlement européen. Et lorsque le CETA a été présenté par la majorité d'Emmanuel Macron, avec une très large majorité de députés macronistes au sein de l'Assemblée, finalement, il n'y a qu'une petite partie de ces députés-là qui ont voté pour le CETA en 2019.
Le texte doit d'ailleurs être envoyé aux députés pour un nouveau vote. Alors vous, Maxime Combes, dites qu'il n'y a plus de majorité pour ce genre d'accord. Vous, Elvire Fabry, dites plutôt que ce vote des sénateurs a été un vote, si ce n'est aveugle, au moins myope. Pourquoi un vote myope? C'est vrai que le CETA, on n'en parlait plus depuis longtemps, et là, ça a ressurgi politiquement.
Justement, vous évoquez le fait qu'il n'y ait plus de majorité politique. Le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a un déficit de délibération sur l'impact de ces accords. Et aujourd'hui, l'enjeu même stratégique, plus sécuritaire de ces accords, dans un contexte international qui est beaucoup plus fragmenté, où on voit qu'il y a de plus en plus de mesures de coercition économique qui risquent de nous couper accès à des approvisionnements stratégiques. Et on a bien vu depuis la crise de la pandémie qu'on prête beaucoup plus d'attention aux biens stratégiques dont on a besoin dans nos productions industrielles, des composants, des minerais critiques qu'il faut qu'on aille chercher à travers le monde. Alors il faut garder quand même à l'esprit que l'Union européenne reste la première puissance commerciale mondiale, qu'elle est très intégrée, elle est très ouverte, mais on n'a pas beaucoup débattu, on n'a pas eu le temps même, je dirais, avant ce vote du CETA au Sénat, de rentrer dans l'impact de cet accord. Il faut voir qu'on a le sentiment que le refus qui a été exprimé par les sénateurs est un petit peu anachronique par rapport au rôle de cet accord, par rapport aux bénéfices que l'on en tire. L'Union européenne a été la grande bénéficiaire dans les échanges, avec le recul que l'on a maintenant sur la mise en œuvre de cet accord depuis 2017.
Parce que voilà, le Sénat l'a rejeté, mais en fait cet accord, il est déjà très largement appliqué. 95% à peu près des mesures sont entrées en vigueur. Pourquoi dites-vous que pour l'instant il bénéficie aux Européens, puisque les chiffres que l'on a, qui en effet montrent une hausse des échanges, une hausse d'ailleurs assez conséquente des échanges, en fait elle parle de la hausse en valeur et non pas en volume. Alors en quoi, pour l'instant, les Européens seraient-ils les gagnants de cet accord tel qu'il a déjà été mis en place ?
En effet, en matière de volume, les Européens sont les grands bénéficiaires, mais on voit bien que même sur...
Non, en valeur plutôt.
Oui.
Pas en volume.
Non.
Pour l'instant, les volumes n'ont pas tellement augmenté.
Non, en valeur, excusez-moi. Mais on voit que même sur des filières pour lesquelles on avait des intérêts défensifs, hein, où on craignait qu'il y ait des déséquilibres créés par cet accord, et en particulier sur une filière que l'on sait plus vulnérable, la filière bovine, les Européens ont exporté 17 livres de viande bovine vers le Canada, lorsque le Canada en importait une livre. Donc on a eu même ça a permis de renforcer la capacité d'exportation des Européens.
Maxime Combes, sur cette question-là, qui en effet est celle qui est remise très souvent sur la table par les agriculteurs quand il s'agit de critiquer alors les accords de libre-échange en général et ce traité-là avec le Canada en particulier, pour l'instant, selon les chiffres qu'on a, mais on sait qu'on peut toujours aussi tout faire dire aux chiffres, mais les chiffres disent qu'en 2023, le Canada n'a exporté vers l'Europe que 1 million de tonnes, 1,4 million de tonnes de bœuf. C'est à peine 2% du volume permis par le CETA, parce que les volumes ne sont pas extensibles à l'infini. Il y a quand même des quotas, des volumes. Est-ce que pour l'instant, on peut imaginer que ces chiffres-là resteront tels quels des années? C'est-à-dire, en quoi ça vous inquiète, alors que les volumes, pour l'instant, sont beaucoup plus faibles qu'annoncés?
Non, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas des dizaines de millions de tonnes de bœuf canadien qui arrivent sur le continent européen. Mais cela ne va pas dire que ça ne va pas se passer, parce qu'en fait, ce que fait le CETA, c'est qu'il ouvre effectivement des quotas qui ne sont aujourd'hui pas utilisés, mais qui le seront peut-être demain si le Canada décide, si la branche bovine et autres canadiennes décident de construire des filières d'exportation vers l'Union européenne. Donc du coup, si on voulait s'assurer de préserver la situation actuelle, eh bien il ne faut pas ratifier le CETA, puisque le CETA crée cette possibilité-là pour le futur. Mais ce que je voudrais dire, au-delà de cette guerre sur l'interprétation des chiffres, c'est de se rendre compte que finalement, on parle là de volumes qui sont pour l'instant résiduels, que le retour qu'on a sur 5 ans et 6 ans et les chiffres triomphants qui ont été annoncés par la Commission européenne et par la France sont des chiffres qui ont été annoncés en valeur non défalqué de l'inflation. C'est un peu comme si votre salaire, qui a peut-être augmenté de 4 à 5% par an ces 3 dernières années, vous disiez après cela, mais c'est formidable, ton salaire a augmenté de 10 à 12%, sauf que si l'inflation est de 15%, vous avez perdu. Quand vous regardez les volumes qui ont été échangés, finalement, et donc du coup, qu'on tient compte de l'inflation, tout cela est relativement secondaire. Il faut bien comprendre ce que fait un accord de libre-échange. Un accord de libre-échange, ça met en compétition des filières entières et des secteurs qui sont extrêmement différenciés du point de vue de leur coût de production et du point de vue des règles et des normes qui les encadrent. Et le libre-échange, c'est de considérer que finalement, en mettant ces secteurs en compétition, les moins compétitifs vont disparaître. Et faisant cela, à l'échelle internationale, à travers l'OMC, tous les accords de libre-échange bilatéraux qui ont pu être signés et mis en œuvre depuis 30 ans, vous créez des perdants de la mondialisation dans chacun de ces secteurs. Ce que dit la Commission européenne, ce que dit le gouvernement français aujourd'hui, ou ce que disent ceux qui défendent ces accords, c'est de dire « mais oui, mais globalement, on y a gagné ». Et peut-être que c'est vrai que du point de vue macroéconomique, même si c'est très compliqué à montrer, qu'au niveau du PIB, vous avez peut-être un peu de croissance liée à ces accords de libre-échange. Sauf que vous créez des perdants extrêmement massifs dans le monde ouvrier, maintenant dans le monde agricole, et que ceci a des répercussions tant sociales que politiques. Et la question qui nous est posée à cette heure-ci, c'est est-ce qu'on veut continuer dans cette voie-là pour des gains finalement marginaux et limités et très discutables de savoir qui est-ce qui gagne, c'est jamais la France ou l'Europe, ce sont les acteurs de marché, donc l'agrobusiness, les multinationales qui y gagnent. Et par contre, on génère des poules de perdants extrêmement importantes.
Sur la question sociale, pardon, Elvire Fabry, la Commission européenne, par exemple, affirme aujourd'hui que la hausse des exportations vers le Canada va faire augmenter de 12% le nombre d'emplois en Europe, voire même a commencé à faire augmenter de 12% le nombre d'emplois. Sur quoi se base-t-elle? Comment fait-elle ses calculs? Qu'est-ce qui permet de dire que de tels traités de libre-échange font augmenter l'emploi en Europe, puisque Maxime Combes vient dire qu'au contraire, les questions sociales seraient douloureuses, les conséquences.
Ce qui est intéressant, c'est de voir le nombre de nouvelles entreprises qui se tournent vers l'export grâce à ces accords. Et en l'occurrence, dans le cadre du CETA, ce que l'on voit, c'est que 75% des entreprises qui se sont tournées vers l'export, pour exporter plus vers le Canada, sont des PME. Ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose de la façon dont ces accords sont aussi un levier pour permettre à des petites entreprises qui jusqu'à maintenant ne vendaient que sur le marché français ou européen, de pouvoir aller conquérir de nouvelles parts de marché à l'étranger. Dans ces accords, on continue à parler d'accords de libre-échange. Mais c'était le cas il y a 20 ans, où on cherchait essentiellement à réduire les droits de douane. Maintenant, ce sont des accords qui ont une composante réglementaire de plus en plus large et qui donnent au contraire beaucoup plus de stabilité, de certitude aux entreprises. Ça protège la propriété intellectuelle et notamment, dans le cas des accords européens, les indications géographiques. Donc ça, c'est un élément essentiel pour toutes nos filières agricoles. Ce sont aussi des accords qui, au fil des générations, ont maintenant une composante plus importante sur le volet développement durable. Donc ça concerne à la fois les droits sociaux et les enjeux de protection environnementale. Il y a une meilleure protection des investissements, il y a un chapitre qui porte sur les PME. Enfin, l'assiette réglementaire, encore une fois, de ces accords est de plus en plus importante.
Les PME, pardon, dans quel secteur? Parce qu'on sait que le secteur agricole et industriel agricole est très concentré, il y a une forme de structure oligopolistique. Est-ce que ces traités de libre-échange ne participent pas, de toute façon, à renforcer encore, et c'est mécanique presque, cette dynamique de concentration des acteurs de l'agroalimentaire, puisque ce sont les entreprises, en effet, qui bénéficient de ces marchés, et non pas les agriculteurs personnellement, individuellement, au gré à gré.
Alors, je dirais qu'en France, on a une vulnérabilité particulière qui est liée à la taille de nos exploitations agricoles et qui fait que la concurrence que subissent nos agriculteurs, elle est d'abord intra-européenne, même avant d'être évaluée à l'international. Et là, vis-à-vis de partenaires comme le Canada, on voit que dans d'autres États membres, les agriculteurs, au contraire, ont gagné des parts de marché par rapport aux agriculteurs français. C'est-à-dire que nous, Français, subissons davantage, d'abord, la concurrence des autres exploitations agricoles européennes.
Est-ce qu'ils en bénéficient directement, les agriculteurs, Maxime Combe, ou est-ce que, encore une fois, ce rapport de force entre les acheteurs et leurs fournisseurs fait que, de toute façon, ce sont à la fin les acheteurs qui gagnent davantage que les producteurs directement ?
Oui, deux choses là-dessus, y compris on s'est mis à regarder qui c'est qui avait gagné des fameuses exportations de fromage vers le Canada. Et quand vous regardez filière par filière, vous vous rendez compte, ok, effectivement, on a vendu un peu plus de brie, mais on a aussi vendu du gouda, de la mozzarella et tout cela. Et ça, ce sont des productions, c'est Lactalis, ou les autres, qui finalement gagnent des parts de marché au Canada. Quelle est la répercussion ? C'est que des producteurs de lait et de fromage au Canada, que vous jugerez peut-être pas suffisamment bons pour les Français, mais qui sont en train de perdre. C'est-à-dire que à chaque fois que vous avez une filière plus compétitive dans une région qui signe un accord de libre-échange et qui gagne des parts du marché, c'est au détriment de son équivalente dans le pays tiers.
Il y a toujours un gagnant et un perdant.
Il y a toujours un gagnant et un perdant qui vont de fait être dans le résultat de la mise en œuvre de ces accords de libre-échange. Et quand on regarde sur longue période les rares études dont on dispose pour regarder y compris les effets sur l'emploi ou les effets économiques pour juger s'ils sont intéressants ou pas, l'accord le plus ancien que nous ayons avec une dimension continentale et très importante, c'est l'accord de libre-échange nord-américain. Et quand vous regardez les études qui ont essayé d'analyser quel était l'effet sur l'emploi, par exemple au Mexique, de cet accord-là, on se rend compte qu'en fait, c'est des données à peu près de 2010, vous avez 2 millions de pertes d'emplois dans le secteur agricole mexicain pour 700 000 emplois gagnés dans le secteur industriel mexicain avec les délocalisations de l'entreprise, des usines américaines. Qu'ont fait ceux qui ont perdu leur emploi, les paysans mexicains? Beaucoup ont migré aux États-Unis et beaucoup aujourd'hui se retrouvent à produire du maïs aux États-Unis pour l'exporter au Mexique parce qu'ils ont perdu leur souveraineté alimentaire et leur autonomie alimentaire sur le maïs. Donc on est là sur des choses quand même qui peut-être sont jugées comme étant intéressantes du point de vue de la construction de filières internationales, mais qui quand même fragilisent grandement les économies des pays.
Mais sur l'agriculture en particulier, l'Europe est censée avoir prévu cette concurrence déloyale puisque 40 milliards d'euros d'aide aux revenus sont spécifiquement orientés vers les agriculteurs. Alors les agriculteurs français en perçoivent 7 sur ces 40 milliards d'euros précisément pour couvrir les écarts de production et d'exigences environnementales avec les pays tiers. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que déjà ce mécanisme est simple et est-ce que les agriculteurs le réclament, cette aide et la touche ? Et est-ce que ça suffit ?
Ce que nous avons, c'est qu'on a des filières agricoles européennes qui sont extrêmement compétitives et qui s'insèrent de manière assez opportune et avec des bienfaits pour ces filières-là dans le commerce international. Ce sont particulièrement pour la France, c'est la filière du lait qui est tenue par l'agribusiness. Mais quand Lactalis gagne, ça ne veut pas dire que derrière vous avez votre producteur de lait français qui va y gagner, puisque au contraire, Lactalis maintient des prix en deçà du coût de fabrication de ce litre de lait. Et Lactalis, du coup, se retrouve en position de force pour dire aux producteurs français « Mais si tu ne me fournis pas le lait à un prix inférieur à ton coût de revient, j'irai le chercher au Canada ou j'irai le chercher en Nouvelle-Zélande », et réciproquement. Et la deuxième filière française qui est extrêmement forte dans les exportations, c'est la production des vins et spiritueux. Et là aussi, c'est pas le petit producteur de vin, ce sont les grandes maisons qui gagnent à l'exportation parce qu'elles sont structurées pour pouvoir le faire.
Alors sur le fromage, on pourrait se dire, si on n'était pas entré dans ces détails que vous nous avez rappelé, Maxime Combe, qui est que, d'accord, on parle fromage, on parle du comté, on parle du Roquefort, on parle du Brie, on parle de ces fromages fabriqués en France qui ne sont de toute façon pas produits au Canada et qu'on peut partager avec nos amis canadiens, si ce n'est que, comme vous le rappeliez, Lactalis est derrière beaucoup de ces fromages-là. Mais on pourrait se dire, bon, le fromage, on comprend, les Canadiens n'en produisent pas, ne produisent pas ceci, on leur envoie. Mais il faut revenir quand même à une question, à mon avis, très béotienne, mais que je ne peux pas ne pas vous poser, Elvire Fabry. La viande, le bœuf, quand on dit, pour l'instant, bon, le Canada a vendu du bœuf aux pays européens, ce n'est pas encore le raz-de-marée que l'on attendait, mais les Européens ont également vendu du bœuf au Canada, donc ça s'équilibre. En même temps, cette viande, que n'a-t-elle été mangée en Europe? Les consommateurs canadiens qui ont acheté européens, eux, que n'ont-ils acheté de la viande de chez eux? Au-delà de la bataille de chiffres, cette absurdité d'une viande qui fait des milliers de kilomètres et qui traverse des océans pour aller être mangée sur un continent d'en face, à quoi ça sert?
Ça sert d'abord à couvrir en partie la demande européenne de viande, parce que la consommation de viande ne baisse pas. Et ça, c'est, je dirais que c'est un enjeu compte tenu des émissions de gaz à effet de serre qui sont associées à la production de...
Et la consommation de viande.
Et la consommation de viande. D'abord, je dirais que si les filières canadiennes ne se sont pas davantage tournées pour le moment vers le marché européen, qui il faut le rappeler, sont des importations de bœuf sans hormones, puisque c'est interdit sur le marché européen, c'est d'abord parce qu'elles sont très intégrées avec le marché américain, que c'est leur principal débouché, et qu'elles n'y voient pas un intérêt économique suffisamment important. D'autant que il faut rappeler qu'il y a quand même des quotas qui sont associés à ces réductions tarifaires. Donc de toute façon,
c'est sur une certaine quantité que des réductions tarifaires s'appliquent, et au-delà d'une certaine quantité, on applique les droits de douane habituels. C'est
voilà,
ça.
Voilà, qui sont beaucoup plus importants. Donc de toute façon, il y a un effet plafond. Et il faut aussi rappeler que les négociateurs européens à Bruxelles ont une vision d'ensemble sur tous les accords commerciaux. Et que les quotas qui sont concédés dans le cadre d'un accord, que ce soit avec le Canada, qu'ils obtiennent vis-à-vis d'un partenaire comme avec le Japon, dans l'ensemble, les importations de bœuf à droits de douane préférentiels ne doivent pas dépasser 4% de la consommation de bœuf dans l'Union européenne. Donc il faut ramener, je dirais, ces enjeux à leur juste proportion.
Maxime Combe, vous n'avez pas l'air d'accord sur le fait que déjà les Européens ont une vision d'ensemble sur les traités de libre-échange. Il y en a beaucoup, hein, qui sont...
Ce que nous dit la Commission européenne quand on, effectivement, on pointe les quotas qui sont ajoutés, c'est-à-dire que des quotas d'importation, il y en a toujours eu. Et l'accord OMC sur l'agriculture en a créé déjà des relativement conséquents pour certaines filières et pour certains pays exportateurs vers l'Union européenne. Et ce que font ces accords de libre-échange, c'est qu'ils rajoutent des quotas aux quotas. Et pour prendre qu'un seul exemple, votre steak, donc ce sont les bons morceaux de bœuf, la partie dont on dit que c'est la loyauté du bœuf, si vous ajoutez tous les quotas qui sont déjà en place, ceux qui vont rentrer en application, type Nouvelle-Zélande, et ceux qui sont en cours de négociation, comme avec le Mercosur, on va atteindre l'équivalent de la moitié de la consommation de morceaux d'aloyau en Europe qui va venir d'importation sur le territoire européen.
Tous ces quotas se surajoutent, en fait. Quota plus quota, ça finit par faire de grosses quantités.
Et là, ce n'est pas une question de, finalement, essayer d'assouvir la consommation européenne. Ce qu'il se passe, c'est que pour la Commission européenne, qui souhaite faire gagner des parts de marché du point de vue des services, de l'industrie, de son industrie financière, de l'exportation de produits phytosanitaires, pesticides et autres, quand elle met ça sur la table avec des pays tiers, il faut bien qu'elle mette en retour quelque chose. Et en fait, elle sacrifie l'agriculture française et européenne, en fait, qui sert de monnaie d'échange. Et sur un certain nombre de secteurs, ça devient extrêmement massif en termes d'importation au regard de ce que l'Union européenne serait en mesure de produire. On serait en mesure aujourd'hui de satisfaire la consommation européenne de bœuf avec de la production européenne.
Mais vous êtes d'accord sur ce que disait Elvire Fabry, c'est-à-dire que pour l'instant, il y a quand même depuis quelques années de nouveaux traités qui sont entrés en vigueur et qui font que normalement les éleveurs, agriculteurs et autres producteurs des pays tiers doivent respecter certaines normes environnementales, parce qu'on continue à dire la viande, on va avoir arrivé de la viande aux hormones ou avec des activateurs de croissance, des antibiotiques, etc. Ça, normalement, cette question-là a été réglée en particulier.
Là, il faudrait rentrer dans le détail. Les hormones, effectivement, ça n'aura pas lieu. Par contre, du bœuf produit avec des farines animales importées sur le territoire européen, ça c'est possible. Du bœuf produit avec des intrants agricoles qui, eux, sont utilisés avec des pesticides interdits sur le territoire européen, c'est possible. C'est par exemple le cas du bœuf néo-zélandais qui va arriver alors qu'il a mangé des produits qui sont produits avec des pesticides
interdits. Avec du labe qui est très fertilisé, on en parlera dans le focus de cette émission tout à l'heure. Elvire Fabry.
L'Union européenne est la région dans laquelle les normes phytosanitaires sont les plus élevées. Et à chaque fois, dans chaque nouvel accord, on essaye d'aller plus loin. Donc l'interdiction de la viande aux hormones, c'est déjà un acquis. Depuis 2022, l'Union européenne également a entrepris de lutter contre l'utilisation excessive des antibiotiques, puisqu'on sait qu'il y a de plus en plus de résistance à l'échelle mondiale contre les antibiotiques. Et ça veut dire aussi qu'un accord comme celui avec le CETA et potentiellement avec le Mercosur, permettrait aussi d'imposer plus de restrictions sur l'utilisation de ces antibiotiques dans la phase de croissance pour l'élevage. Simplement qu'on puisse les réserver à l'utilisation s'il y a une épidémie ou quelque chose.
Les agriculteurs, eux, et notamment français, relèvent les paradoxes, voire hypocrisies de la Commission européenne qui exige des normes très strictes en matière environnementale, qui a mis sur la table ce Green Deal, le pacte vert qui pose aujourd'hui beaucoup de problèmes d'exécution aux agriculteurs français. Dans le même temps, la Commission européenne supprime les droits de douane sur des biens qui ne respectent pas toutes les règles dans le détail, puisque Maxime Combes disait aussi que le diable se niche dans les détails, sauf que ça fait 30 ans qu'on a demandé aux agriculteurs, notamment français, d'abandonner certaines molécules, de prendre en compte la biodiversité, d'améliorer la qualité de l'alimentation de leurs bêtes. Ce sont des démarches qui ont un coût, ce sont de gros investissements, pas juste un changement d'habitude et des efforts qui ne sont pas répercutés sur les prix. Est-ce qu'aujourd'hui, la question des prix est mise sur la table? Qu'est-ce qui permet de dire aujourd'hui, d'après vous, Elvire Fabry, on fera réagir Maxime Combes, que les agriculteurs n'ont plus à être inquiets de ces questions-là? Parce que au quotidien, c'est vraiment ce qui est le plus difficile à vivre.
Alors, je dirais que là, on sort de la question vraiment du respect des normes phytosanitaires et on rentre plutôt dans le registre des termes de la concurrence et qui nous renvoie au mode d'exploitation dans l'Union européenne. Et vous venez de l'évoquer, le Green Deal impose beaucoup plus de contraintes et donc là c'est une préoccupation très particulière des agriculteurs de savoir comment rester concurrentiel en respectant toutes les normes qui concernent la protection de la biodiversité. Et alors là c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à négocier avec des partenaires des pays tiers, et on le comprend bien avec des pays en particulier comme ceux de l'Amérique latine, où lorsque l'on a le gouvernement français qui aspire à introduire plus de clauses miroirs dans les accords, ce sont des clauses qui doivent être négociées et qui ne sont pas forcément acceptables par nos partenaires. Et il faut les différencier des mesures miroirs que l'on peut appliquer de manière unilatérale, ce que l'on a fait avec la déforestation, en imposant une interdiction stricte d'importation dans l'Union européenne de produits qui peuvent être issus de la déforestation.
Mais Maxime Combes, sur cette question de la déforestation dont vous disiez il y a quelque temps que le Mercosur, c'est alors on se reconcentre sur le Mercosur, parce que c'est vrai qu'on a commencé avec le CETA, l'accord avec le Canada. Le Mercosur, donc, c'est Mexique, Argentine, Uruguay, Paraguay. Cet accord est à nouveau sur la table.
Brésil,
pardon, pas Mexique, parce que le Mexique fait l'objet d'un accord bilatéral avec l'Union européenne. Le Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay. Emmanuel Macron sera à Brasilia cette semaine pour rencontrer le président Lula. Ils ne sont pas d'accord pour l'instant sur les termes de l'accord. Sur la déforestation, des choses avaient été entreprises, et notamment au niveau de la Commission européenne, puisque l'Union européenne avait, en 2021, publié un nouveau texte pour dire voilà ce qu'on va faire contre la déforestation. Où est-ce que ce texte en est? Pourquoi, Maxime Combes, d'après vous, il n'est pas suffisant?
Alors là, les nouvelles réglementations pour essayer d'éviter ce qu'on appelle la déforestation importée. C'est-à-dire que quand vous importez un bien venant de l'étranger, notamment donc de pays où il y a des grandes forêts, notamment tropicales mais pas que, ce serait l'idée qu'on s'assure que ces produits-là n'ont pas été le fruit de déforestation. Alors il faut effectivement la réglementation européenne, et ça toutes les ONG l'ont reconnu, fait un pas en avant. Il y a des trous dans cette réglementation qui sont extrêmement importants. On ne va peut-être pas rentrer dans le détail ici, mais par exemple, toutes les forêts brésiliennes ne sont pas concernées, et notamment des forêts qui sont aujourd'hui la frontière d'expansion à la fois du soja et du bœuf au Brésil, et qui ne sont pas concernées par cette réglementation. Donc ça ne va pas les limiter. Mais surtout, ça pose une question extrêmement difficile à régler, qui est de savoir comment réellement vous contrôler. Et en fait, les ONG, toutes les études qui ont pu être faites montrent que, en fait, on ne sait pas bien tracer précisément ce que un jeune veau va devenir et par quel feedlots va-t-il passer pour s'assurer qu'il sera totalement sans lien avec la déforestation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces accords de libre-échange considèrent à la base que toutes les réglementations sur les prix, donc ça c'est les droits de douane, toute réglementation sur les quantités, donc ça c'est les quotas, toutes les réglementations plus générales sur la qualité des biens qui rentrent ou qui sortent sont finalement globalement des entraves au commerce. Et ces accords-là cherchent à réduire toutes ces réglementations-là publiques, considérer que le marché et les acteurs de marché seront bien plus à même d'organiser le commerce international. Et là, ce qu'on nous vend comme idée, aussi bien de la Commission européenne que Paris, c'est qu'avec des mesures miroirs qui sont relativement inapplicables et des clauses miroirs dans les accords...
Clauses qui garantissent la réciprocité des normes sanitaires et environnementales.
Cela, ça n'existe pas réellement. Et que des clauses miroirs dans ces accords-là, qui n'existent totalement pas, vont régler le problème. Non, le problème, c'est plutôt de revenir sur ce principe de base qui consiste à dire nous allons mettre en concurrence des secteurs totalement différents du point de vue de leur compétitivité et des réglementations qui les encadrent. Nous allons continuer à faire du commerce international, mais l'enjeu c'est de repenser celui-ci sur de nouvelles bases et pas cette logique de compétition et de mise en concurrence de secteurs très différemment compétitifs.
En tout cas, le président du Brésil, Lula, président de gauche, revenu au pouvoir il y a quelques temps, lui est totalement pour cet accord, le plébiscite, il l'a redit. Non, pas totalement, Maxime Combes ?
Alors, pas totalement, parce qu'en fait, Bolsonaro a sacrifié toute une partie de son économie lorsqu'il a finalisé l'accord. Et en fait, ce que cherche à faire Lula, c'est effectivement, il n'est pas opposé à l'accord, mais il cherche à rééquilibrer cet accord-là.
La France est muito ciosa da proteção dos seus produtos agrícolas, da sua pequena e média agricultura.
La France est arc-boutée sur la défense de ses produits agricoles, de ses poulets, de ses légumes, de son fromage, de son lait et de son vin. Tout comme la France tente de défendre bec et ongles son patrimoine agricole, nous défendons le nôtre. C'est toute la beauté des négociations. À la fin, quelqu'un doit céder.
Le président brésilien Lula en Espagne début mars, il a rencontré son homologue Pedro Sanchez. Il a manifesté son agacement vis-à-vis de la France qui fait pression sur la Commission pour que les négociations en restent là. Ils ne pensent, ces Français, qu'à leur petit poulet et à leur vin, a dit Lula. Qu'est-ce que, d'après vous, Elvire Fabry, qu'est-ce que change le fait que le Brésil soit désormais de nouveau présidé par Lula et non plus par Jair Bolsonaro, qui était très contre tout ce qui est normes environnementales, contre la déforestation, la déforestation importée, comme vous le disiez, Maxime Combes, de l'Amazonie. Est-ce que ça donne des garanties, au moins de moyen terme, si ce n'est de long terme ?
Oui, parce que ça va dans le sens d'un engagement plus important du Brésil sous la présidence de Lula pour lutter davantage contre le changement climatique et encore une fois pour des termes de commerce qui sont mieux encadrés. Et j'ai envie de remettre quand même en perspective cet accord dans son contexte global, parce que l'on a vu ces dernières années une économie brésilienne qui s'est énormément tournée vers la Chine, qui a fait exploser ses exportations agricoles vers la Chine, qui a une demande de produits agroalimentaires très forte. Un gouvernement brésilien qui paye maintenant ses importations venant de Chine en yuan, et un rapprochement qui n'est pas simplement commercial entre le Brésil et la Chine, mais qui est également un rapprochement politique, géopolitique. On se souvient de la position de Lula sur l'invasion de l'Ukraine. Et finalement un rapprochement du Brésil et de la Chine aussi au sein du groupe des BRICS. Et pour les Européens, un accord comme l'accord bilatéral avec le Mercosur, c'est pas simplement un accord qu'il faut voir d'un point de vue purement commercial, c'est aussi dans un contexte géopolitique beaucoup plus large. C'est-à-dire que la place qu'on ne prend pas dans cette région-là, c'est la Chine qui la prend. À un moment où nous-mêmes, nous essayons de réduire notre dépendance à la Chine et on a besoin de trouver de nouveaux débouchés à la fois en termes de marché, mais aussi en termes d'approvisionnement stratégique. On ne parle pas assez des ressources minières que l'on trouve au Brésil ou en Argentine, et qui sont des secteurs dans lesquels la Chine, à nouveau, a beaucoup investi ces dernières années, et il faut qu'on puisse accéder aussi à ces ressources de manière plus sécurisée.
Ressources minières, ressources aussi dont l'Europe a grandement besoin pour activer la transition énergétique qu'elle appelle de ses voeux, que ce soit le cuivre, le fer, le lithium, tous ces minerais aussi que l'Union européenne recherche aujourd'hui pour sa transition. Maxime Combes, vous dites que l'Amazonie, riche en matières premières, justement, fait que le Mercosur est un accord de commerce néocolonial, puisque l'Europe irait puiser dans les pays du Sud les ressources nécessaires pour maintenir nos modes de vie, dispendus en ressources par ailleurs. Pourquoi le président Lula serait-il favorable à un accord néocolonial? C'est vrai que ça paraît presque étrange de l'entendre à ce point-là défendre cet accord de libre-échange du Mercosur avec ses dangers environnementaux que l'on sait, parce que l'extractivisme, finalement, on n'en sort pas.
Bon, vous n'aurez pas manqué de voir précisément que Lula est dans une situation politique de coalition, c'est-à-dire qu'il gouverne avec la droite. Il gouverne avec une partie de l'agrobusiness brésilien et la situation politique au Brésil fait qu'il passe des compromis. Ce qu'il faut entendre dans ce que dit Lula, et je ne vais pas le défendre plus que ça, parce qu'effectivement, on a un désaccord assez fondamental, c'est de considérer que l'accord qui a été négocié par Bolsonaro est très déséquilibré. À ce stade, cet accord-là est extrêmement bénéfique pour les multinationales européennes. Et l'Union européenne a effectivement gagné dans la négociation des choses assez impressionnantes qui vont privilégier effectivement l'industrie pharmaceutique européenne, l'industrie automobile européenne, l'aviation européenne, le secteur des services européens. En gros, toutes les multinationales françaises qui sont tournées vers les exportations, mais aussi allemandes et tout ça, vont y gagner. On va même leur continuer à leur vendre des pesticides qui sont interdits sur le territoire européen parce qu'on pense que c'est bon pour le commerce. Et le Bolsonaro a sacrifié son secteur de la santé, ses secteurs industriels. Et ce que Lula essaye d'obtenir en disant « moi je veux un accord » parce qu'effectivement son agrobusiness est tourné vers l'exportation, l'agrobusiness au Brésil vote Bolsonaro. Donc du coup, signer un accord qui favorise l'agrobusiness brésilien, c'est de fait favoriser la droite extrême brésilienne. Ça, il faut bien l'avoir en tête. C'est-à-dire que ces accords ont des conséquences sociales et politiques et il y a des gagnants et des perdants qui ne sont pas les mêmes. Ça ne va pas favoriser la petite agriculture paysanne brésilienne, ça va favoriser plutôt les secteurs qui ont fait Bolsonaro. Donc il n'y a pas de garantie à long terme. Bolsonaro peut revenir lui ou un autre. Et on a cette idée-là que cet accord, il va être là pour 30 à 40 ans et avec des effets extrêmement massifs qui vont, si je peux juste finir là-dessus, qui vont effectivement maintenir le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay dans une logique d'exportation de matières premières. Et en ce sens-là, c'est néocolonial, c'est de considérer que finalement leur fonction dans l'économie mondiale, c'est exclusivement de fournir des matières premières agricoles, minières, énergétiques au reste du monde. Et nous, on va leur apporter l'économie moderne avec nos multinationales. Les gagnants, c'est l'agrobusiness et les multinationales.
D'ailleurs, on a souvent eu l'occasion dans Culture Monde de parler des dangers de l'extractivisme, en particulier sur le continent sud-américain. Je ne peux pas faire comme si on ne l'avait pas fait, mais donc Elvire Fabry, je vous laisse répondre. Vous avez notamment dit non de la tête quand Maxime Combes a expliqué que nous, Européens, nous allions exporter vers les pays du Mercosur, notamment des pesticides qui aujourd'hui sont interdits sur notre sol. Vous sembliez dire que c'était faux. C'est pourtant quelque chose qu'on entend très souvent.
Oui. C'est documenté.
Oui, mais l'Union européenne a des standards aujourd'hui plus exigeants dans l'utilisation des pesticides. Je dirais que l'Union européenne, elle est surtout tournée vers les filières que vous évoquiez, les filières dans lesquelles elle a des intérêts offensifs. En effet, c'est dans les secteurs des services, tous les secteurs industriels.
La chimie aussi, madame.
La chimie aussi, parce que
donc c'est... Donc les produits pesticides.
Oui, voilà. Pour revenir, si je peux revenir sur un élément que vous évoquiez pas avec la position de Lula, un des éléments que Lula aimerait renégocier dans cet accord, beaucoup plus que ces déséquilibres entre différentes filières, c'est notamment l'ouverture du marché public. Parce que c'est un accord dans lequel les pays du Mercosur avaient accepté d'ouvrir leur marché public de manière très 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 extensible, et que là Lula estime qu'il a fait trop de concessions, et on sait que c'est des secteurs dans lesquels notamment les entreprises françaises ont des intérêts offensifs importants. Donc c'est un élément sur lequel lui-même aimerait revenir.
Alors on n'a pas eu le temps d'évoquer beaucoup d'enjeux géopolitiques de ces traités de libre-échange, mais en quelques mots rapidement, avant d'entendre le disque, on sait qu'aujourd'hui l'Allemagne d'Olaf Scholz défend ces traités de libre-échange, alors que jusqu'à présent la position de l'Allemagne était plus réservée, et puis les Verts sont au gouvernement. Il y a d'autres pays qui s'opposent formellement à ces traités, et la France n'est pas le seul. Est-ce qu'un pays peut faire capoter les négociations, que ce soit sur le CETA ou sur le Mercosur? Les 27 n'ont-ils pas donné un mandat à la Commission européenne pour qu'elle prenne en charge la négociation avec les directions générales du commerce des pays tiers, Maxime Comte?
Alors, faire ça très rapidement est compliqué, mais effectivement, si la France est réellement opposée à cet accord UE-Mercosur et avec le contenu de cet accord-là, il ne faut pas simplement le dire à Paris, mais il faut à Bruxelles qu'elle exige soit de retirer le mandat de négociation de la Commission européenne, ou soit de renégocier le mandat avec lequel la Commission européenne négocie. Juste un mot sur la géopolitique. Il y a bien entendu des enjeux géopolitiques majeurs à l'heure actuelle, et il vaut mieux qu'on renforce nos liens avec des démocraties importantes que peuvent être le Brésil ou d'autres.
Il y a aussi l'Argentine dans le Mercosur, qui est dirigée par Javier Milei, qui pose d'autres questions, mais on n'a pas le temps d'en débattre ici.
Voilà, donc du coup, il y a un peu un parallélisme des formes qui n'est pas fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas finalisé avec Bolsonaro, mais on a finalisé avec son collègue argentin, Javier Milei. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que cela passe par la libéralisation du commerce? C'est l'idée qu'on nous a vendue lorsque la Chine est rentrée dans l'OMC, lorsque la Russie est rentrée dans l'OMC, en nous disant que c'est par le commerce international qu'on allait construire la paix, l'harmonie entre les peuples et les nations. On voit bien que cela ne fonctionne pas. Il y a matière à reprendre des négociations avec les pays du Mercosur et finalement avec les pays d'Amérique latine, qui sont principalement des démocraties, sur la lutte contre le réchauffement climatique, la protection de la biodiversité, la mise à disposition des technologies vertes. Aujourd'hui, elles sont protéger ces technologies vertes, c'est absolument scandaleux. Ça aussi, c'est néocolonial. C'est de dire, faites mieux, faites plus vert, mais les technologies, on va les conserver.
En tout cas, l'Union européenne a multiplié les accords commerciaux bilatéraux avec le Canada, le Mercosur, le Mexique, le Japon, le Vietnam, la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, on en parle juste après ce groupe néo-zélandais qui s'appelle OMC. Ça ne veut pas dire Organisation mondiale du commerce, mais Otara Millionaires Club.
The bluff, the cape, steaming sands, boiling plates, white water swells, bridges of old, deep clear nights, open shows, winter season brings out the best, summer nights in Auckland. And my father used to say, oh, we came to this land of plenty, and we came to this land of hope. Came to this land of good times, and we came to this land of love. Oh, we came to this land of love. Mountain range, snow peaked tops, fresh water streams, Vovo Strait. Open caves that glow supreme, black sand shores, lined rock, monuments, Mission Bay, Cuba Street, Vulcan Lane, westerly winds, sudden rains, beautiful days in Wellington. And my father used to say, oh, we came to this land of plenty, and we came to this land of hope.
Land of Plenty, le pays de l'abondance, c'est une chanson qui date de 1996 du groupe néo-zélandais OMC, qui veut donc dire Otara Millionaires Club et non pas Organisation Mondiale du Commerce. Otara, c'est une banlieue pauvre d'Auckland où les chanteurs ont passé leur enfance. Vous écoutez Culture Monde, le premier épisode de notre série sur les rapports de force politique qui se nouent à travers les accords de libre-échange. Nos invités Elvire Fabry et Maxime Combes ont débattu de l'opportunité des différents textes signés par l'Union européenne, notamment avec le Mercosur et et avec le Canada. Le CETA a été rejeté jeudi dernier par les sénateurs français. L'Union européenne, elle, dit avoir pris en considération toutes les critiques sur les conséquences environnementales et sociales des traités de libre-échange et passe désormais des accords qu'elle qualifie de nouvelle génération.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Le 22 novembre dernier, le Parlement européen votait le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, traité qui intègre les accords de Paris sur le climat. La Nouvelle-Zélande qui est par ailleurs l'un des 10 plus gros producteurs de lait au monde avec des conditions de production différentes de celles des éleveurs européens, comme l'explique le patron de Fonterra, le géant néo-zélandais du secteur laitier.
Dans d'autres parties du monde, quand les agriculteurs traversent une mauvaise période, la première chose qu'ils font, c'est aller voir leur gouvernement pour obtenir de l'aide. En Nouvelle-Zélande, les fermiers veulent s'adapter et réduire leurs coûts de production pour traverser les difficultés seuls. Ici, il n'y a pas de soutien du gouvernement. Nos fermiers se frottent aux marchés internationaux depuis très longtemps. Ils ont donc inventé une manière de faire du business à la ferme qui est plus apte à amortir les chocs systémiques et qui est beaucoup plus efficace.
Bonjour Alessandra Kirsch.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en économie agricole, directrice du Centre de réflexion Agriculture Stratégie, qui fait le lien entre la recherche et le monde politique. Vous avez publié une longue note sur cet accord de libre-échange entre Union européenne et Nouvelle-Zélande. D'abord, depuis que cet accord a été ratifié, donc il y a 4 mois, est-ce que les rayons de nos magasins sont déjà remplis de produits laitiers néo-zélandais, puisqu'on parle surtout des produits laitiers?
Alors en fait, nous, on le verra pas dans le rayon des magasins, puisque les produits laitiers néo-zélandais qui seront importés suite à cet accord, ils sont plutôt à destination des industries agroalimentaires. Donc c'est pas un produit fini que vous importez, que vous allez voir en rayon, mais c'est des entreprises agroalimentaires qui peuvent choisir d'utiliser du beurre néo-zélandais, des fromages, de la poudre de lait, qui vont incorporer dans leurs recettes. Et ça, avec par exemple les soucis qu'on a en matière d'affichage de l'origine sur l'étiquetage, le consommateur n'en sera pas nécessairement informé.
Averti.
Par contre, ce qu'on a vu, c'est que au niveau, par exemple, des kiwis, donc là, on change de secteur sur le secteur des kiwis, on a une augmentation des importations de kiwis qui est déjà visible.
Sur le lait, et ces kiwis sont directement vendus en rayon des supermarchés ou ils sont aussi utilisés par ailleurs pour être transformés, je sais pas, peut-être en compote de kiwi, en gâteau au kiwi, je sais pas.
Non, là, pour le coup, sur les kiwis, vous allez surtout avoir des kiwis à contre-saison.
D'accord.
Vous allez avoir davantage de kiwis à contre-saison et des kiwis. Là, le danger, c'est un abaissement des droits de douane sur les kiwis qui va bientôt être mis en place et qui risque de permettre à ces kiwis de aussi concurrencer nos producteurs pendant la saison de production des kiwis français.
Alors, c'est un traité, ce traité avec la Nouvelle-Zélande, qui permet à la Nouvelle-Zélande de bénéficier de nouveaux contingents, donc des nouveaux quotas de biens agricoles exportés avec peu ou pas de droits de douane. Est-ce qu'il est sûr qu'elle va exploiter cette possibilité-là?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a certaines productions où c'est un abaissement des droits de douane à zéro sans contingent. Donc, c'est le cas des kiwis qu'on vient d'évoquer. C'est le cas des pommes, du miel, de certaines productions, des oignons. Et pour d'autres productions comme le lait, c'est des contingents supplémentaires, mais c'est surtout un abaissement des droits de douane pour des contingents existants. Ça veut dire que on en met en plus avec des droits de douane très très faibles. Et en plus de ça, ce qui existait, on abaisse des droits de douane. Il y avait encore des droits de douane sur les contingents qu'on avait attribués antérieurement et on les rabaisse encore. Donc si on regarde simplement les volumes supplémentaires, on peut se dire au final on n'en rajoute pas grand-chose. Mais ce qui compte, c'est de regarder l'ensemble avec les taux préférentiels et le fait qu'avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, on avait des contingents qui avaient été réduits sur certains de nos partenaires commerciaux, dont la Nouvelle-Zélande. Et cet accord bilatéral permet de réaugmenter des contingents qui avaient diminué à cause de la sortie du Royaume-Uni.
Alors, sur la Nouvelle-Zélande, pour prendre un exemple, le beurre néo-zélandais, jusqu'ici taxé 700 euros la tonne, je crois, est désormais taxé 95 euros la tonne avec cet accord de libre-échange. Et dans quelles conditions, puisque c'est là le nerf de la discussion, dans quelles conditions ce beurre, ce lait est-il produit en Nouvelle-Zélande? Est-ce que les agriculteurs néo-zélandais et européens ont les mêmes contraintes, notamment en termes de dépenses, les mêmes charges financières?
Non, ce n'est pas les mêmes contraintes. Il faut comprendre que c'est des systèmes de production qui sont vraiment différents. On a une image de la Nouvelle-Zélande qui est très verte, très green. L'élevage est basé effectivement sur le pâturage, mais c'est un pâturage extrêmement intensif avec une gestion de l'herbe qui est basée sur beaucoup d'engrais azotés, beaucoup, beaucoup d'irrigation. Donc, nous, on ne pourrait pas du tout avoir cette gestion de l'herbe-là parce que, par exemple, on a une directive nitrate qui va limiter ce qu'on peut mettre en azote issu à la fois des animaux, et on va regarder aussi ce qui est comment on gère les engrais. On a plusieurs directives qui font que gérer des pâtures comme ça, ce serait pas du tout possible. C'est pas non plus le même climat. Nous, on a des vaches qui passent l'hiver en bâtiment, et ils n'ont pas forcément besoin d'avoir ces charges en bâtiment. Donc, en termes de coûts de production, c'est pas la même chose. En termes d'industrie, c'est pas la même chose, puisque la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment un pays qui n'a pas défini son agriculture pour répondre aux besoins de ses consommateurs, mais qui a défini son agriculture tournée vraiment vers l'export. La part de l'export dans le PIB des Pays-Bas est bien plus importante que chez nous. C'est une agriculture qui est conçue pour exporter.
Un tout petit mot pour conclure, Alessandra Kirsch. Il se trouve que dans cet accord, par exemple, l'Union européenne a interdit à la Nouvelle-Zélande de recourir au feedlots, qui est donc l'engraissage industriel des bêtes dans des hangars. Est-ce que ça sert à quelque chose? En quoi, pourquoi l'Union européenne se sert entre autres de cet argument-là pour dire que c'est un traité nouvelle génération qui a été signé avec Auckland?
C'est l'idée des traités de nouvelle génération, c'est de vendre au grand public l'idée qu'on impose les mêmes clauses qu'une réciprocité des normes. Et donc on a mis ça en avant parce que c'est le seul point qu'on a intégré dans cet accord-là comme une exigence supplémentaire par rapport à l'existant. Sauf que il n'y a pas de feedlot à la Nouvelle-Zélande, donc ça coûtait pas bien cher d'arriver à mettre ça dans l'accord, parce qu'au final c'était pas une contrainte supplémentaire pour la Nouvelle-Zélande, parce que ça ne correspond pas du tout à son modèle. Et le texte de l'accord dit bien que l'accord ne doit pas aboutir à faire modifier la réglementation interne à la Nouvelle-Zélande. On ne va pas vers des accords de nouvelle génération qui permettent d'avoir les mêmes normes de production. On arrive à des produits, des caractéristiques des produits. Un lait va être conforme aux caractéristiques d'un lait produit chez nous. Mais en termes de normes de production, ce n'est pas la même chose.
Merci beaucoup Alessandra Kirsch, docteure en économie agricole, directrice du Centre de réflexion agriculture stratégie, qui fait le lien entre la recherche et le monde politique, comme l'indique votre site. Elvire Fabry, une réaction, on entend que le diable se cache dans les détails, là encore une fois, puisque certes, Wellington, la Nouvelle-Zélande, a adopté un plan Fit for a Better World en 2021, donc c'est un partenaire qui respecte davantage certains engagements environnementaux que d'autres, et néanmoins, comme le disait Alessandra Kirsch, eh bien, l'herbe néo-zélandaise a plus grand chose de naturel, elle est fertilisée, elle est irriguée beaucoup plus qu'ici. Donc comment toujours saisir dans la subtilité les détails qui font qu'un accord de libre-échange sera ou pas bénéfique?
C'est important d'aller dans les détails. Je pense que c'est aussi important d'avoir la vue d'ensemble et de rappeler que notamment dans cet accord avec la Nouvelle-Zélande, on n'a jamais obtenu autant d'engagement dans l'exigence de nos normes environnementales et de lutte contre le changement climatique. Il y a notamment des engagements contraignants où on suspend les termes préférentiels de l'accord si la Nouvelle-Zélande ne respecte pas les engagements de l'accord de Paris et le respect de toutes les conventions internationales en faveur de la protection de l'environnement. Juste en un dernier...
On arrive vraiment à la fin de cette émission.
Lorsque Maxime Combe évoquait le terme de néocolonialisme, je pense qu'il faut le risque de néocolonialisme, notamment à propos des extractions minières. Je pense qu'il faut aussi se méfier de notre approche un peu néocoloniale dans la façon dont on veut imposer nos modes de production à tous nos partenaires. Qu'il y ait des différences de concurrence, c'est un fait, mais de vouloir exporter complètement nos choix collectifs, c'est encore un autre enjeu.
Bon, je renvoie quand même aux émissions et épisodes de Culture Monde que nous avons consacrés à la question, et notamment le désastre environnemental de l'extraction de lithium dans les pays qui en regorgent en Amérique du Sud. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Elvire Fabry, chercheuse géopolitique du commerce à l'Institut Jacques Delors. Merci beaucoup Maxime Combe, membre du collectif Stop CETA Mercosur, d'avoir été tous les deux avec nous. On va parler d'autres traités de libre-échange toute la semaine. Demain, nous parlerons de la Chine. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et ce qui a retenu votre attention, Catherine, ce matin, fait le lien avec notre émission d'aujourd'hui, puisque c'est le cercle vicieux dans lequel sont enfermées des milliers de femmes en Inde qui ramassent de la canne à sucre pour de grands groupes industriels.
Quand une canette de soda, Coca ou Pepsi ou bien du chocolat Cadbury a un arrière-goût de brutalité, dette, mariage forcé de jeune fille puis hystérectomie, c'est une enquête glaçante de plusieurs mois que livrent le New York Times et le Fuller Project, média récompensé pour ses reportages sur les femmes, plongées dans l'état indien du Maharashtra, transformé en puissance productrice de sucre par Coca-Cola et PepsiCo, mais à quel prix se demandent ces médias. Le cœur de l'exploitation des femmes et des jeunes filles se trouve dans le district de Bid, une région rurale et pauvre du Maharashtra dans l'ouest de l'Inde qui abrite une grande partie de la population migrante, des coupeurs et coupeuses de canne à sucre, des saisonniers agricoles. Sur un échantillon de 82 000 femmes étudiées par le gouvernement local, une sur cinq, voire une sur trois, selon les sources, a subi une hystérectomie afin de travailler sans interruption, explique le New York Times. Alors pour comprendre cette vie de douleur, comme le résume The Indian Express, il faut regarder le système global et local. L'Inde est le deuxième producteur mondial de sucre, rappelle le New York Times. Et l'état du Maharashtra représente un tiers environ de cette production pour l'Inde et pour des entreprises occidentales. Mais dans l'état du Maharashtra, l'industrie sucrière a une particularité. Les saisonniers agricoles ne sont pas directement recrutés et payés par les propriétaires d'exploitation, non. Le million de travailleurs et de travailleuses agricoles qui migrent vers les champs du sud et de l'ouest du Maharashtra pendant la récolte, qui dure d'octobre à mars, reçoivent une avance de la part d'intermédiaires, à peu près 5 dollars par jour et par personne pour une saison de 6 mois qu'ils doivent rembourser en travaillant. Le travail dans les champs se fait souvent à deux, note le New York Times. Mari et femme gagnent deux fois plus qu'un homme seul, si bien que les mariages forcés sont presque une tradition de l'industrie sucrière. On parle de mariage aux portes de l'usine. Une saisonnière agricole, Archana, confie au New York Times avoir été mariée trop jeune, à l'âge de 14 ans. Sa dette envers son employeur la maintient encore dans les champs 20 ans plus tard. Le Fuller Project précise que les hommes coupent la canne à sucre, les femmes font tout le reste, elles arrachent les feuilles pointues de la canne, ce qui demande de la pratique pour ne pas se couper, elles empilent la canne à sucre, portent les paquets sur leur tête jusqu'au camion, ce qui entraîne des douleurs constantes au niveau du cou notamment.
Et ce n'est pas le seul mal de ce système de servitude moderne, Catherine.
Comme les travailleurs agricoles sont endettés, ils ne peuvent pas se permettre de s'arrêter pour des problèmes de santé. Et pour les femmes qui ont des règles douloureuses tous les mois, sans protection hygiénique propre non plus, dans des champs de canne à sucre, sans eau ni toilette, avec un risque d'infection urinaire, poursuit Vignon Express, la solution peut être radicale. L'hystérectomie, encouragée par l'industrie sucrière, explique Megha Rajagopalan, co-autrice de l'enquête du New York Times.
The pay for sugarcane workers is so low that missing even a day of work.
Les travailleurs et travailleuses agricoles n'ont littéralement pas les moyens de manquer un jour de travail, explique l'autrice du New York Times. Quand une femme a besoin de voir un médecin, non seulement elle paie la consultation, les frais de transport pour s'y rendre, mais elle devra aussi rembourser une journée de travail. C'est pour cela que des milliers de femmes optent pour une solution drastique, l'hystérectomie. Mais cette opération est lourde, comme le montrent des femmes indiennes au New York Times, en levant leur sari, en faisant voir leur longue cicatrice sur le ventre. Ces hystérectomies entraînent d'autres douleurs avec parfois des problèmes de cicatrisation. Un sujet déjà soulevé il y a 5 ans dans les pages du Hindu Business Line, mais depuis, rien n'a changé ou presque, indique le New York Times et le Fuller Project. Les inspecteurs de grands groupes comme Coca, Pepsi ou Cadbury ne vérifient pas les conditions de travail des saisonniers agricoles qui travaillent en Inde dans les champs de canne à sucre.
Et pour finir, Catherine, des manifestations massives hier dans un pays dont on parlait aujourd'hui, l'Argentine, le centre de Buenos Aires notamment a été paralysé pendant plusieurs heures.
Une marée humaine, indique la Prensa, des dizaines de milliers d'Argentins, partisans de gauche ou du kirchnérisme, sont descendus dans la rue hier, jour du souvenir des victimes de la dictature, entre 1976 et 83, pour dire « Nunca más, plus jamais ça », alors que le coup d'État du 24 mars 76 a porté la junte au pouvoir, elle allait faire 30 000 morts et disparus, selon les organisations des droits humains. Ce bilan est ouvertement contesté par le président Javier Milei et sa vice-présidente Victoria Nabila Rouel via une vidéo qui a été diffusée hier aussi, où l'on voit un ancien guérillero affirmant avoir inventé de toutes pièces ce chiffre de 30 000 victimes de la dictature, inacceptable pour Estela De Carlotto, infatigable militante à l'âge de 93 ans. Elle a fondé le mouvement des grands-mères de disparus et exige encore et toujours une loi contre le négationnisme. Estela De Carlotto demande également la réintégration des fonctionnaires licenciés alors qu'ils travaillaient pour des sites mémoriels et la fin de la stigmatisation de la fonction publique en général, rapporte la chaîne télévisée Canal 5 Noticias. Réplique cinglante de la vice-présidente Victoria Villarroel, « Personne n'a voté pour vous », indique le journal Perfil et la Prensa. Mais l'attitude de l'exécutif argentin, sa politique d'austérité aussi, avec la moitié de la population dans la pauvreté en Argentine, tout cela transforme, selon Parina Dothé et El País, la manifestation d'hier en une résistance bien actuelle.
Merci beaucoup Catherine Dutu.